Bon, comme je vous ai mentionné, là, pendant la pause, on jasait puis on a presque passé tout de rette sur la météo et la circulation. Pierre-Luc Lachance, conseiller municipal à la Ville de Québec pour District Saint-Roch-Saint-Sauveur, est avec nous en studio ce matin. Pierre-Luc, je sais pas si on avait réglé ça l'autre fois. On se tutoie, c'est-tu correct?
On se tutoie, oui, okay. C'est déjà réglé.
Comment ça se passe ce matin?
Ça se passe très bien ce matin. Bon matin, justement. J'écoutais la circulation. Mais je regarde aussi la circulation cycliste le matin. Ouais. Étant un cycliste, comme on dit, qui aime ça se lever tôt, j'aime ça me promener en ville. Et c'est le fun de voir avec le printemps, l'été qui arrive, les gens se réapproprier la rue et utiliser justement nos infrastructures cyclables. On voit que le mouvement est en train de bien prendre à Québec.
Okay. Je vais commencer avec cette question-là, dans le fond. Puis ensuite, tu sais, on va jaser trafic, on va jaser vélo, on va jaser rue piétonne aussi pour la saison estivale. Est-ce que c'est possible, Pierre-Luc, de rêver un jour où il y a une parfaite harmonie entre vélo et voiture à Québec? Ou est-ce qu'on cherche juste le meilleur des résultats?
On cherche le meilleur des résultats. Okay. La parfaite harmonie va... Puis ça, c'est dans toutes les villes. C'est toujours un peu on tire à gauche, on tire à droite pour être capable d'avoir une partie de la couverture. Je pense qu'à Québec, on avait un certain retard qui était en place depuis des dizaines d'années parce que ça n'avait pas été, comme on dit, priorisé dans le développement de la mobilité. Aujourd'hui, en 2024, on est dans une façon de faire qui se veut différente. Pourquoi? Bien, parce que les gens le demandent. Les gens le demandent. Veulent de la mobilité, être capable de relier nos quartiers. Puis on en parlait quand on a développé les réseaux cyclables dans les années 80. Bon, c'était sur le côté de la route. On mettait deux lignes blanches, puis merci, bonsoir, organisez-vous. Puis des fois, ça faisait un demi-mètre de large. Des fois, quand on était chanceux, ça faisait un mètre de large. Mais aujourd'hui, on essaie d'arriver avec des standards du confort, de la sécurité. Puis ça a d'autres effets positifs, comme on l'a vu cette semaine.
C'est quoi les standards, justement, quand je vais te lancer là-dessus, les standards d'aujourd'hui par rapport aux standards d'avant? Et qu'est-ce qui a changé justement pour faciliter cette mobilité haute, qu'elle soit piétonne ou qu'elle soit cycliste?
Bien, en termes de confort, par exemple, c'est les largeurs qu'on est venu travailler. Donc, on est passé, comme je disais, d'endroits où on avait 0,5, 0,7 mètres à des pistes maintenant de 1,2, 1,5 mètres de largeur, 1 mètre de largeur. Au lieu d'être juste de la peinture au sol, on est venu mettre des bollards. Les bollards qui permettent de mieux signaler les endroits. Donc, ça, c'est important. On est venu aussi surélever des pistes cyclables. Pourquoi? Bien, pour séparer les différents niveaux de circulation. Donc, la rue est à un niveau, la piste cyclable est à un autre niveau, le trottoir est à côté, des fois à un autre niveau, des fois séparé par d'autres types de matériaux pour aider les gens à bien se situer. Donc, ça, c'est venu développer des standards. Et ce qu'on remarque, c'est que le standard qu'on m'a dit de rouler sur la rue avec juste des bandes cyclables, ça vient chercher 10 à 15% de la population maximum. Ça vient chercher les cyclistes, comme on dit, avec des bons vélos bien en spandex.
Oui.
Mais ça vient pas chercher monsieur, madame, tout le monde. Tandis que quand on vient mettre des paramètres un peu avec les bollards, avec les autres types de pistes cyclables, mais là, on vient chercher le haut 56% de la population qui, eux, se sentaient pas à l'aise à choisir le vélo. Donc, quand on développe ça, bien là, on vient augmenter notre potentiel que les gens choisissent le vélo. Puis c'est ce qu'on constate aujourd'hui à Québec, particulièrement. Par exemple, sur le chemin Sainte-Foy, vous avez entendu parler.
Oui, parlons-en. Il y a eu un impact quand même positif. On a réduit la vitesse des automobilistes. On peut lire dans le Journal de Québec cette semaine qu'il y a moins de contraventions qui ont été données, entre autres dans le secteur de l'école Anne-Hébert.
Exact. Puis, on remarque aussi une utilisation accrue du vélo. Avant, on avait mesuré que le chemin Sainte-Foy, c'est environ 300 cyclistes qui passaient là par jour. Aujourd'hui, on est à plus de 2000 cyclistes par jour qui passent. Bien, ça change justement la façon dont les gens ont à circuler dans leur quartier. Puis ce qu'on a remarqué, c'est qu'on a une piste cyclable aussi, Père Marquette, qui est parallèle au chemin Sainte-Foy. Et il n'y a pas de baisse non plus sur Père Marquette. Donc, les gens continuent à fréquenter Père Marquette pour faire aller dans le même quartier, aller dans les alentours. Et chemin Sainte-Foy sert à relier les différents quartiers, donc la zone de l'université avec un peu plus le centre-ville. Donc, c'est vraiment une voie express. Nous, c'est pour ça qu'on appelle ça des corridors vélocité. Bien, c'est la vélocité. On se donne justement la vitesse pour accéder à différents secteurs.
Pierre-Luc, qu'est-ce qu'on dit à ceux et celles qui... qu'est-ce qu'on répond à ceux et celles qui vont dire c'est pas nécessairement la piste piste cyclable qui fait en sorte qu'on réduit la vitesse, c'est l'achalandage puis le trafic. Qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là?
Ben, un, il n'y a pas du trafic 24 heures sur 24 sur la voie cyclable, pas la voie cyclable, excusez, la rue, mais ce qu'on voit vraiment, puis c'est documenté là, dans la littérature de la mobilité, vous comprenez, comme responsable de la mobilité à la Ville de Québec, je m'intéresse beaucoup, je lis beaucoup sur ça, mais c'est vraiment l'aménagement. Et plus on vient travailler à bien baliser les voies, plus l'automobiliste reçoit le bon signal de circuler à la bonne vitesse. Si on a une voie qui est très, très large, puis on met une pancarte de 30 km/h, l'automobiliste ne comprend pas. Il dit, ben moi, j'ai de la largeur, je suis capable de prendre la vitesse, je me sens en sécurité de prendre la vitesse. Et c'est tout à fait normal. Tu sais, on est en confiance, on conduit avec notre confiance, comme on conduit notre vélo, comme on conduit notre auto. Plus on a l'âge, plus on est en confiance. Mais on met une pancarte de 30, c'est sûr qu'elle ne sera pas respectée. Tandis que si on fait un aménagement qui est plus serré, qui vient justement créer le bon message envoyé, ben l'automobiliste va voir qu'il a à ralentir parce que c'est l'environnement urbain qui vient dicter la chose et pas juste la pancarte.
Donc, ça vient expliquer là, justement avec le fait qu'on agrandit la voie cyclable que il y a une circulation qui est diminuée en termes de vitesse sur le chemin Sainte-Foy. Oui. C'est ça pour vous l'explication principale?
Bien, c'est une des grandes explications. On a changé aussi la synchronisation des feux, qui vient aussi amener la place des piétons plus correctement. On a rajouté des feux spécifiques pour les cyclistes. Fait que là, on vient diminuer le conflit qu'on avait des fois qui se créait entre piétons et cyclistes parce que le cycliste a le droit de circuler sur un feu piéton à condition, et très important, de laisser la priorité aux piétons. Mais l'idée, c'est que là, on est venu mettre des feux cyclistes supplémentaires pour donner un go au cycliste. Comme ça, lui, il peut passer. Mm-hmm. Et après ça, le piéton vient se positionner et tout le monde navigue en sécurité sur la rue.
Comment ça se passe avec les commerçants, justement, sur le chemin Sainte-Foy ou dans d'autres artères que vous allez créer? Là, je sais que vous allez créer un corridor vélocité sur Marie de l'Incarnation. Oui. Comment ça se passe avec leur chiffre d'affaires? T'sais, je sais qu'au début, il y avait beaucoup de craintes. Hey, on va perdre du stationnement, je vais perdre du monde. Mm-hmm. Comment ça s'est matérialisé la première année?
Bien, pour l'instant, les chiffres qu'on a datent de l'étude qu'on a faite avec Moneris qui montrait que les choses étaient stables. On continue à monitorer ça. On a des commentaires de certains commerçants qui sont justement encore un peu inquiets et tout. On continue à travailler. On fait des ajustements au niveau justement de la façon que le stationnement peut se faire à proximité des commerces. Donc, on est en mode écoute, on est en mode agile et c'est ce qu'on s'est dit. C'est un projet évolutif et c'est ce qu'on vient implanter aussi sur Marie de l'Incarnation, un projet évolutif avant le projet permanent, mais ça permet de faire des correctifs pour, lorsqu'on arrive au projet permanent, avoir la meilleure solution.
Moi, j'ai aucun problème avec les cyclistes, puis je trouve qu'on devrait partager d'ailleurs, tu sais, automobile, vélo sur les routes. Je pense que le message aussi important à passer, puis est de là, des fois, la frustration de certaines personnes en voiture, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un code de la route à respecter si on est à vélo aussi. Oui. Et c'est là que ça peut devenir dangereux pour certaines personnes. Il faut respecter les quatre stops, il faut respecter les lumières. Oui. Ça, c'est important parce que pas tout le monde qui le fait à vélo.
Mais tu fais super bien de le rappeler, Reg. Pour moi, c'est primordial. Puis c'est ça qu'on appelle le civisme. C'est ça qu'on appelle le fait de se respecter les uns les autres. Moi, je pense que si les cyclistes respectent comme il faut le code de la route, bien, ça donne un beau message pour les piétons, ça donne un bon message pour les automobilistes. Ça envoie le signal aussi aux autres de respecter ces règles-là. Et c'est ça, un sentiment de communauté qu'on se doit de développer. Je suis vraiment heureux que tu prennes le temps ce matin de souligner l'importance de tous et chacun de respecter les codes parce que c'est comme ça qu'on se comporte et qui va faire que tout le monde va avoir sa place au bon moment, au bon endroit, en sécurité.
Puis c'est pas juste une situation propre à Québec ou les grandes villes. Moi, j'ai cette frustration-là des fois à Donnacona puis à Cap-Santé. C'est qu'à un moment donné, t'arrives à un stop, toi, tu l'as fait, le vélo fait pas son quatre stops et c'est là que tu pourras avoir un incident dangereux.
Absolument,
là.
Tu le soulignes très bien. Donc, très important que l'ensemble des usagers de la route respectent les règles. Pour moi, c'est primordial. Je suis très heureux que tu prennes le temps de le souligner.
Rue piétonne à Québec, j'étais surpris qu'il y en ait moins cet été. Je vais t'avouer que, puis là, c'est une opinion très personnelle que je vais te dire, là, mais Colin, que je les aime, moi, mes rues piétonnes. J'aime ça aller me promener en ville.
Ben oui, moi aussi.
J'aime en profiter, il me semble. Puis là, tu sais, j'entends des commerçants qui disent, hey, je perdais de la business, mais moi, il me semble que je suis toujours en train de m'acheter un café en quelque part en me promenant.
Exact.
T'sais, qu'est-ce qui explique ce frein-là, justement, des commerçants?
Bien, souvent, c'est une méconnaissance. Puis ça aussi, c'est dans la littérature, c'est une méconnaissance des avantages. Puis les commerçants ont raison de soulever des préoccupations parce que une rue piétonne pour une rue piétonne, s'il n'y a pas une prise en charge qui est faite de la rue piétonne, tu vas marcher dedans, mais tu vas la trouver morte aussi, même s'il n'y a pas d'animation. Fait que c'est sûr que les commerçants, entre eux, doivent se mobiliser, doivent s'organiser pour dire comment on occupe, on habite notre rue piétonne pour que ça soit le fun. Puis j'étais en déplacement à Chicago il y a quelques semaines avec ma copine et on marchait dans des rues justement qui avaient été piétonnisées mais qui amènent justement les commerçants à être dans la rue. Fait que pour ça, ça prend un équilibre, ça prend une volonté de l'association. C'est pour ça que présentement, il y en a un petit peu moins. Les gens ont moins cette volonté-là, ont peut-être moins le temps, ont des enjeux, mais on va continuer à le travailler. Il y a certaines rues qui continuent d'être piétonnes, qui ont des succès. On pense à la rue Saint-Jean qui particulièrement depuis des années et des années.
Puis il va y avoir un beau projet sur la rue Saint-Louis, là, notamment avec propriétaire Paulina Pizzeria, propriétaire du Bello. Là.
Exactement.
Donc, ça, est-ce que ça va pouvoir vous aider justement à bien mesurer l'impact?
Bien, tout à fait. Puis on peut parler justement de d'autres rues qui présentement font le choix parce que Saint-Vallier, on est en reconstruction de la rue. On en a parlé la dernière fois que je suis venu. À terme, le but, c'est justement que les commerçants se réapproprient la rue avec des espaces terrasses et tout pour créer un milieu de vie. Et moi, tu soulignes, ça amène une dynamique, mais pour ça, il faut que nos commerçants soient prêts aussi à changer peut-être des habitudes. S'investir à ce niveau-là, mais on le voit, à chaque fois qu'il y a de l'investissement, ça se fait. Mais c'est sûr que si c'est juste la Ville de Québec qui imposerait une rue piétonne, bien là, on aurait une démobilisation complètement puis ça manquerait de sens pour le milieu de vie.
Bien, Pierre-Luc, d'ailleurs, le mot-clé, je pense, dans tout ça, c'est équilibre. Il est là le défi, je pense, pour une ville, c'est de trouver l'équilibre pour les rues piétonnes. Ouais. Trop, pas assez, juste le bon nombre. Puis la volonté des commerçants et des citoyens aussi. Je pense juste aux frustrations qu'il y avait eu au fil des années à Montréal sur Sainte-Catherine. Là. Quel tronçon, dans le village, maintenant, c'est rendu